Bien, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet d'actualité. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps, les tout dernières fins des temps. Aussi, je voudrais que nous fassions une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 3e jusqu'au verset 15. Nous ferons plusieurs lectures pendant ce court message. Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il était question de la destruction de Jérusalem. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et quand il est parlé de royaume, c'est toujours ou presque toujours de royaume spirituel. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour, selon la version grecque, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, et moi j'ai noté en marge de ma Bible, la fin de la nuit pour les élus. Je voudrais que nous fassions une lecture aussi dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 25. Versets 15 et 16. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et puis, le verset 25 et 29 du même chapitre. Verset 25. À tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Médie, à tous les rois du Septentrion, à tous les rois du Septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde, qu'ils soient sous la face de la terre, et le roi de Sédécias boira après eux. Il est question, bien sûr, de la colère de Dieu. Alors, il est écrit dans 1 Pierre 4, 17, le jugement commence par la maison de Dieu. Et je voudrais que nous lisions aussi dans Ésaïe chapitre 10, verset 12. Ésaïe chapitre 10, verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Le jugement, il est écrit dans 1 Pierre 4, 17, commence par la maison de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, le jugement commence par la maison de Dieu. Eh bien, tout simplement parce que l'enlèvement doit avoir lieu. Et pour que l'enlèvement ait lieu, il faut que l'Église soit épurée, purifiée et blanchie. Parce que le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Or, cette épuration, ce blanchiment, ne peut se faire qu'au travers de l'épreuve. Alors, il est certain que le jugement va commencer par la maison de Dieu pour que l'Église soit épurée et qu'elle puisse partir au jour de Jésus-Christ et que Jésus puisse la présenter au Père, cette Église pure, irrépréhensible et sans reproche. Pourquoi la colère de Dieu se manifeste-t-elle? Tout simplement, frères et sœurs, parce que le monde vit dans le péché et que ce péché va grandissant. Le monde ne fait aucun cas de Dieu. Et ce qui est grave, encore plus grave, c'est que l'Église s'appauvrit. Vous l'avez certainement remarqué comme moi, plusieurs abandonnent le Seigneur et d'autres encore retiennent la vérité captive, comme le dit Paul aux Romains chapitre 1er et verset 18. Jérémie 2, 19 nous dit que c'est une chose mauvaise que d'abandonner l'Éternel. Moi, je dirais que c'est une chose très mauvaise. Un exemple biblique, parmi tant d'autres, pour notre instruction, Osias, si vous le lisez dans le livre des rois, était un roi qui a eu beaucoup de prestige. Il a eu beaucoup de prestige tant qu'il marchait dans les voies de Dieu. Mais, hélas, l'orgueil s'est emparé de lui, l'orgueil est entré dans son cœur et sa chute, elle a été vertigineuse. Il a été couvert de lèpre parce que l'orgueil est rentré dans son cœur. C'est une chose mauvaise que d'abandonner le Seigneur. Abandonner Dieu a toujours des conséquences graves, très graves. Et vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 28 verset 6 que Pekach, chef de l'armée syrienne, tu as 120 000 personnes, hommes d'Israël, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. S'éloigner de Dieu, c'est toujours grave. Et ça a toujours des conséquences très graves. Et même pour nous, frères et sœurs, veillons. Veillons à ne pas abandonner le Seigneur. Veillons à ne jamais nous éloigner du Seigneur. Ne serait-ce qu'un instant. Parce que être chrétien, c'est un état de cœur. Ce n'est pas aller à une réunion de temps en temps. Ce n'est pas lire la Bible. Ce n'est même pas prier. C'est un état de cœur. C'est un amour permanent pour notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, vous direz, mais moi, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Avez-vous remarqué que l'Église, et je parle de l'Église en général, l'Église s'appauvrit. L'Église s'appauvrit. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, 12 et 13, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 15 nous dit ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il est écrit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, c'est quoi l'abomination et la désolation? Frères et sœurs, c'est l'esprit du monde qui rentre petit à petit dans le cœur de l'Église, dans le cœur du chrétien. Et le chrétien, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Et quand l'esprit du monde rentre dans notre cœur, c'est une abomination parce qu'on ne peut pas appartenir à Dieu et appartenir au monde. On ne peut pas être sur la balance un petit peu pour Dieu et un petit peu pour le monde. Non, il faut que nous soyons tout entiers pour le Seigneur. Or, nous constatons que l'Église s'appauvrit de jour en jour. Et nous l'avons vu avec toutes les histoires que nous connaissons dans les églises. Mais c'est quoi l'abomination, la désolation? Bien sûr, je l'ai dit, c'est l'esprit du monde qui rentre dans le cœur. Après une période de trouble, les Juifs du temps de Jérémie, chapitre 42, verset 6, avaient pris la décision d'obéir à l'Éternel. Et ils sont arrivés à dire, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. C'est formidable. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons quand nous nous sommes convertis? Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait? Nous avons répondu aux paroles du pasteur qui nous a dit, souhaitez-vous suivre le Seigneur toute votre vie? Nous avons dit, oui, je veux suivre le Seigneur toute ma vie. Je veux persévérer dans ses voies. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait de tout mon cœur. Le jour où je me suis converti, le soir, je suis rentré dans la chambre où j'étais nourri, logé à Marseille. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Seigneur, mais ne permets jamais, Seigneur, que je m'éloigne de toi. C'est ce qu'ont dit les Juifs à l'époque de Jérémie. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Et dans les versets suivants, Dieu leur donne la marche à suivre. Dieu leur donne la marche à suivre. Mais nous voyons, hélas, qu'au chapitre 43, verset 4, et 44, verset 16, nous voyons qu'ils prennent la décision de ne plus obéir. C'est quand même formidable comment on peut changer d'avis. Que s'est-il passé? Et ils ont dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous ne t'obéirons en rien. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est parce que ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Parce qu'ils voulaient aller en Égypte pour échapper aux tyrans de la Syrie, au roi de Syrie, qui leur faisait la guerre. Et Dieu leur avait dit, n'allez pas en Égypte, je vous garderai, je vous protégerai, et le roi de Syrie ne vous fera rien. Alors ils ont dit, non, 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 on ira en Égypte. Là-bas, on aura de quoi manger et on sera protégé. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que nous sommes capables, même devant la difficulté, même devant la mort, si elle devait se présenter à nous, avoir confiance en Dieu, persévérer dans les voies de Dieu, aller de l'avant, lui faire confiance jusqu'à la fin? Pourquoi ce changement? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils avaient pris la décision d'aller en Égypte contrairement à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous faisons parfois. Nous prions et nous disons à Dieu que nous voulons faire sa volonté, mais sitôt la prière terminée, nous reprenons notre vie normale, ne faisant aucun cas de ce que Dieu veut changer dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas changer nos habitudes, parce que cela ne plaît pas à la chair. Alors, on fait un petit peu la sourde oreille et on continue notre vie quotidienne. On n'aime pas changer nos habitudes. Alors, le Saint-Esprit finit par ne plus nous parler. Il finit par se taire. Et frères et sœurs, nous risquons fort d'être là, de rester là au jour de Jésus-Christ. Avoir de bonnes dispositions, c'est bien. Mais obéir, c'est mieux. Et ça plaît au Seigneur. Et sa colère ne s'enflammera pas envers nous. Parce que Dieu aime ceux qui lui obéissent. D'ailleurs, 1 Samuel 15, 22 nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien sûr, obéir demande des efforts qui déplaisent à la chair. Obéir demande des efforts. Mais il faut savoir ce que nous voulons, frères et sœurs. Est-ce que nous voulons entrer dans le royaume de Dieu ou pas? Oh oui, je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Alors il faut que je fasse ce que le Seigneur me demande. Même si ça ne plaît pas à ma chair, même si ça me déplaît, même si ça me demande des gros efforts, il faut que j'obéisse au Saint-Esprit et à tout ce qu'il me demande. Et si nous rentrons dans le royaume de Dieu, si nous rentrons, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, parce que nous avons obéi, quelle sera notre place? Quelle sera notre place? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quelle sera notre place? Sachez-le bien, frères et sœurs, soyez-en convaincus. Notre place dans le ciel, elle sera selon notre obéissance sur la terre. La mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, a demandé à Jésus, dans Matthieu 20:20, que ses deux fils soient dans le royaume de Dieu, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus a dit à cette femme, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Oui, Seigneur, nous pouvons la boire. Oui, c'est vrai que vous la boirez. Mais pour ce qui est d'être à la droite et à la gauche de Dieu, cela est réservé à qui mon Père l'a réservé. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à payer le prix que Jésus a payé? Vous savez que nous devons marcher sur les traces de Jésus. Vous savez que l'Église est appelée à souffrir afin qu'elle soit, je l'ai dit tout à l'heure, épurée, purifiée et blanchie. Alors, frères et sœurs, si la souffrance vient, ne la refusons pas. Mais disons, Seigneur, aide-moi à la supporter. Seigneur, et que la force de la supporter ne dépasse pas, que la souffrance ne dépasse pas la force de la supporter. Frères et sœurs, l'Église est appelée à passer par le creuset. L'or était puré dans le creuset. Le chrétien est appelé à souffrir afin qu'il soit épuré. Sommes-nous prêts à souffrir et mourir pour la gloire de Dieu? À vous de répondre à cette question. Jésus nous dit dans Luc chapitre 12, verset 33, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Frères et sœurs, si j'ai une question à vous poser ce soir, à tous ceux qui sont à l'écoute, où est notre trésor? Où est notre trésor? Est-ce qu'il est dans notre compte en banque? Est-ce qu'il est dans notre situation sociale? Est-ce qu'il est dans notre maison? Que sais-je? Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et Dieu sait où est notre trésor. On ne ment pas au Seigneur. On ne peut pas le tromper. Parce que Dieu lit dans les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Et il voit la pensée de notre cœur la plus profonde. On peut tromper notre frère. On peut tromper notre sœur. On peut tromper notre épouse, notre époux, par des paroles. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Frères et sœurs, nous vivons la fin des temps. Et la colère de Dieu va s'abattre sur le monde parce qu'il vit dans le péché. Premièrement, dans la maison de Dieu. Et deuxièmement, quand la maison de Dieu sera enlevée, quand le peuple de Dieu sera enlevé, alors la colère de Dieu s'abattra sur le monde. Et ce sera terrible. Terrible pour le monde et terrible pour ceux qui ne seront pas enlevés, pour les vierges sages qui n'ont pas eu la sagesse de se préparer. Frères et sœurs, je vais terminer. Il faut que nous puissions échapper à la colère de Dieu en nous préparant aujourd'hui, en faisant la volonté de Dieu, en ne pas refusant la souffrance si elle doit venir, en persévérant dans les voies de Dieu, dans la lecture, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Et notre place, elle sera prépondérante, elle sera de la qualité de notre vie sur la terre. Frères et sœurs, persévérons. Le royaume de Dieu nous est ouvert et le Seigneur nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Alors, dès aujourd'hui, prenons cette décision de persévérer dans les voies de Dieu et faisons tout pour échapper à la colère de Dieu. Acceptons la transformation dans notre cœur. Acceptons le renouvellement de notre intelligence et obéissons à la parole de Dieu afin que nous soyons dignes d'être appelés des enfants de Dieu. Oh, que Jésus vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il transforme votre cœur, qu'il transforme mon cœur, et qu'ensemble, nous puissions partir à la rencontre de Jésus au jour de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci parce que, Seigneur, tu nous veux avec toi, Seigneur. Oui, éternel, notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous voulons, Seigneur éternel, être dans ton royaume, Seigneur. Être, Seigneur, à la place que tu nous as réservée. Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-nous, Seigneur, un cœur selon toi. Un cœur obéissant, soumis, Seigneur éternel. Ô Dieu d'amour et de grâce. Oui, Seigneur, bénis ton Église. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Bénis tous ceux qui veulent marcher dans tes voies. Seigneur éternel, s'il te plaît, Père. Oh, donne gloire à ton nom, Jésus. Père Tout-Puissant, qu'il t'en revienne toute la gloire, Seigneur, parce que tu veux que ton Église, Seigneur éternel, marche dans tes voies. Tu veux, Seigneur, qu'elle soit persévérante, qu'elle soit triomphante, Seigneur. Éternel, notre Dieu, aide-nous, Seigneur éternel, mon Père, à résister au mal, Seigneur. Éternel, notre Dieu, Jésus, afin que nous soyons dignes d'être des disciples de Jésus-Christ. Sois béni, Père, maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Merci pour l'exhortation, l'appel encore ce soir, Seigneur. Oui, tu reviens bientôt. Ta parole nous le dit et les événements autour de nous nous montrent que tu es à la porte, Seigneur. Il y a encore peu de temps et tu viens. Seigneur, nous voulons nous laisser sanctifier, purifier. Je veux me laisser sanctifier, purifier, Seigneur, afin que il n'y a rien de mauvais en moi, Seigneur. Merci. Merci pour ta patience. Merci pour ta persévérance envers nous, envers l'Église, envers chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous veux purs, oui, Seigneur, pour glorifier ton nom sur la terre et dans le ciel. Seigneur, merci. Merci de bénir ton peuple, ton Église, ceux qui traversent des difficultés. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-nous afin que nous allions jusqu'au bout, Seigneur. Oui, jusqu'au bout. Afin que nous puissions être enlevés avec tous les élus, Seigneur. Merci, Père. Bénis, bénis cette soirée, le reste de cette soirée, Seigneur. Amen.
Amen.
Alléluia.